Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Point d'orgue consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique occidentale. Parce qu'il y a un siècle, presque jour pour jour, mourait Gabriel Fauré, l'un des plus grands compositeurs français de l'histoire. Il est né le 12 mai 1845 à Pamiers, en Ariège, et il est mort le 4 novembre 1924 à Paris. C'est un des plus grands organiste, pianiste et compositeur français. Il fut élève de Camille Saint-Saëns et de Gustave Lefebvre à l'école Niedermeyer à Paris. Il fut maître de chapelle et organiste à l'église de la Madeleine à Paris. Il en sera donc le promoteur dans les arts et il fut bien entendu plus tard le directeur du Conservatoire de Paris. Un des plus grands musiciens donc qui nous touche encore aujourd'hui, non seulement parce qu'il a eu ce génie musical de faire quelques pièces parmi les plus célèbres dont nous allons écouter quelques extraits naturellement, mais également parce que ce compositeur avait un génie simple, c'était celui de la mélodie. Mais ce génie simple, c'est peut-être le plus compliqué, c'est-à-dire celui d'être capable de vous faire rentrer quelque chose dans la tête, quelque chose que vous pouvez siffloter, quelque chose qui va rester. Et ça, Gabriel Fauré en était un des plus grands maîtres de son époque. Il était capable également d'avoir cette fausse simplicité dans l'harmonie. Quand on parle de cadence fauréenne, il a un petit peu bouleversé les choses, mais de manière assez douce. Ça n'a pas été un des musiciens les plus tonitruants, mais aujourd'hui encore, ses compositions restent parmi les plus importantes. Et bien sûr, moi, en tant que personne qui vient du Sud-Ouest, eh bien, je suis un petit peu attaché à l'héritage de Gabriel Fauré, qui a ramené un peu de ce Sud-Ouest à Paris et qui a su faire rayonner la musique française partout dans le monde. Et bien entendu, lorsqu'on pense Gabriel Fauré, avant toute autre œuvre, on pense à son Requiem, œuvre absolument magistrale qui a fait date dans l'histoire de la musique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce Requiem tranchait avec les Requiem de ses illustres prédécesseurs, parmi lesquels on peut naturellement compter Mozart et Berlioz, également Verdi, qui étaient des œuvres absolument extraordinaires, il est vrai, mais qui ne plaisait pas beaucoup à Fauré. Pourquoi ? Parce que il les jugeait un petit peu trop tonitruantes. Et il est vrai que quand on écoute Verdi ou Berlioz, on se dit que peut-être la place de ces requiem est plutôt à l'opéra plutôt que dans les églises. Et Fauré, donc, lui, s'est attelé à la tâche. En plus, il s'est attelé à la tâche tout seul, on lui a rien demandé. Il a composé ce requiem pour personne, pour rien, a-t-il dit, pour rien, si ce n'est le plaisir. Et en fait, le personne en question, c'était un paroissien lambda qui était décédé, et il a décidé de soumettre cette composition au curé de l'époque, qui d'ailleurs, lui, n'a pas vu ça d'un bon oeil. Il lui a dit, monsieur Fauré, écoutez, du répertoire, on en a plein, peut-être qu'on peut se passer de cette composition. Et effectivement, cette composition est presque étrange. Il est vrai que ce Requiem est très loin de ses prédécesseurs que nous venons de citer, parce que dans la tonalité, il est extrêmement différent. Il est vrai que Gabriel Fauré disait qu'il voulait que cette musique, celle du Requiem, soit, je cite, « douce comme moi-même ». Et il est vrai que la douceur et la lumière, ce sont les thèmes les plus présents dans cette œuvre-ci. Dans la structure générale de l'œuvre, pour commencer, déjà, il a omis le dies irae. Vous savez, la tempête, la colère divine, alors elle est suggérée à certains moments, mais il l'a omise. Et ensuite, tous les morceaux commencent et se terminent de la même manière, c'est-à-dire par la nuance piano ou pianissimo, c'est-à-dire doucement. C'est une œuvre qui a certes beaucoup de contrastes, il y a des mouvements parfois beaucoup plus tumultueux, mais tous commencent et terminent piano avec cette espèce de douceur qui baigne toute l'œuvre. Et il est vrai que, même si certaines harmonies nous font penser à des choses beaucoup plus criardes, évidemment, on parle de la mort, il s'agit d'un requiem, eh bien, certains extraits, eux, sont beaucoup plus calmes. Et vous allez voir avec celui que je vais vous proposer, c'est un des morceaux les plus atypiques de ce requiem, il s'agit de l'Agnus Dei. Alors, je vous le prononce à la française, à la gallicane. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, encore à Paris, on prononçait le latin à la gallicane. Vous savez, cet héritage de Louis XIV, où on prononçait le latin à la française. Donc, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pourquoi ? Tout simplement pour contrer le pouvoir du pape. Et c'est resté des siècles plus tard. Et donc, Gabriel Fauré, quand il compose ce requiem, donc requiem et non requiem, il le pense, il l'entend à la gallicane. Et donc, c'est important d'avoir cette recontextualisation. Et c'est pour ça que l'enregistrement que je vais vous proposer, qui est celui de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin que je dirige avec Emmanuel Pellapra aux grandes orgues historiques Cavaillé-Coll, avec une esthétique d'orgue qui est parfaitement adaptée à ce répertoire-là, et bien forcément, il y a ce son un petit peu d'authenticité, pardon, que nous avons voulu remettre au goût du jour. Et alors, le morceau que je vous propose, c'est l'Agnus Dei. L'Agnus Dei, il est extraordinaire à plus d'un titre. Déjà, vous allez l'entendre dès le début, dès les premières mesures. Il y a un thème à l'orgue qui est à vous prendre par la main. Et pourtant, ça va en contradiction même avec le texte. Voilà ce que vous allez entendre avec l'orgue. Ce thème, c'est presque comme si on vous racontait une histoire. C'est doux, c'est tendre, et en même temps, on sent qu'on raconte quelque chose. Et ensuite, vous avez presque le cantus firmus qui vient s'ajouter, comme si les ténors chantaient une sorte de prosodie grégorienne. Vous voyez, ça fait comme une sorte de question-réponse entre le thème de l'orgue et le thème des ténors qui reprennent. Et alors, vous allez avoir cette espèce d'ambivalence entre les deux, et toujours avec une forme de grande simplicité. Là, vous avez un thème qui est en fa majeur, qui est une tonalité qui est douce, assez chaleureuse, assez tranquille, et qui vient vraiment rassurer l'auditeur. Et c'est d'autant plus marquant que c'est pour un Agnus Dei qui pourtant dit, eh bien, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix. Et c'est quelque chose effectivement d'assez extraordinaire, parce qu'on se dit qu'il veut vraiment nous rassurer même quand on demande pardon. Alors vous allez voir ensuite dans les harmonies, même quand on va chanter Agnus, il va y avoir des choses beaucoup plus inquiétantes, et on va se douter que les tourments de l'enfer ne sont vraiment pas très loin. Mais heureusement, encore une fois, avec cette musique, je recite, douce comme moi-même, eh bien le compositeur va arriver à nous reprendre par la main calmement, notamment parce qu'il va mettre un autre thème important de la musique grégorienne, qui est le Lux Aeterna, cette lumière éternelle qui fait bénir cette espèce de chaleur. Et alors ça se joue notamment par l'harmonie. Vous allez avoir un thème qui va terminer en Do majeur. Je vous joue la tonalité de Do majeur. Et voyez cette note aiguë, le Do qui va rester en Do majeur va se métamorphoser comme s'il y avait presque une forme de transfiguration lumineuse en La bémol majeur. Donc je vais vous enchaîner les deux et vous allez voir comment la lumière arrive sur le mot même luxe. Lumière donc. Et vous voyez comment là, tout simplement, par le biais de l'harmonie, eh bien, Gabriel Fauré va participer à ce thème et faire de ce moment quelque chose d'absolument extraordinaire. Ensuite, la fin de cet Agnus est notamment incroyable parce qu'il reprend le thème initial de l'introïte et du Kyrie que l'on entend au tout début de ce morceau-là, qui est assez symptomatique aussi de ce qu'a voulu faire et mettre en place comme ambiance Gabriel Fauré. Ça commence par une octave à vide. Et en fait, l'octave à vide, ça permet de montrer le manque, le doute, et en même temps, on ne sait pas comment l'harmonie va se remplir. Et la façon dont Gabriel Fauré va le remplir, c'est le Ré mineur, cette tonalité si triste, qui sied si bien à l'âme du défunt. Voici comment donc ça va se remplir, d'abord avec l'octave à vide, puis le chœur qui vient remplir l'harmonie. Voyez donc ces espèces de couleurs qui viennent et qui là se disent que véritablement nous sommes dans une situation angoissée qui correspond bien à l'idée que l'on fait d'un Agnus Dei. Et bien entendu, Gabriel Fauré, encore une fois avec son génie, va utiliser les tonalités et on va passer de ce Ré mineur au Fa majeur et retourner raconter l'histoire. Et vous allez voir qu'à la fin de cet Agnus extraordinaire, eh bien, il va réussir à nous renvoyer dans cette chaleur. Donc il y a cette œuvre extrêmement ambivalente, cet Agnus Dei absolument extraordinaire. Je me permets de vous le décortiquer. Pourquoi ? Parce que Gabriel Fauré disait qu'il n'était pas croyant, et moi je ne crois pas qu'il ne fût pas croyant, parce que quand on écrit ce genre de choses-là, eh bien forcément c'est qu'on est inspiré par quelque chose d'autre. Et il est vrai que en ce centenaire de la mort de Gabriel Fauré, vous avez peut-être dû entendre, réentendre ce requiem, mais naturellement, quand on voit les artifices qu'a mis en place le compositeur, on se dit qu'il n'est pas seul et que sa main n'est pas guidé seulement par lui-même, mais que son écoute intérieure a été à l'écoute de quelque chose de bien plus grand. Et c'est pour ça que je vous invite à découvrir et maintenant à redécouvrir l'Agnus Dei du Requiem de Gabriel Fauré. Voilà pour cet extrait fantastique du Requiem de Gabriel Fauré, cet Agnus Dei, qui était donc interprété par la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Cernin, à l'orgue Emmanuel Pellapra, et à la direction votre humble serviteur, une des pages les plus extraordinaires du répertoire de la musique sacrée, tant il est vrai que son expressivité va au-delà des conventions et au-delà du simple génie, c'est-à-dire que cette composition est génial parce qu'elle est profondément humaine et on le sent particulièrement dans cette page-là de l'Agnus Dei que je trouve absolument magique. C'est peut-être pas la partie la plus célèbre du Requiem, bien entendu quand on pense au Requiem de Gabriel Fauré, on pense à son introit dont vous avez eu un petit rappel pendant l'Agnus Dei. Il y a bien entendu cette partie centrale soliste où les enfants, enfin où l'enfant soliste s'exprime, le pied Jésus, et bien entendu la dernière phase, le In Paradisum, là aussi pleine d'espoir, pleine de sentiments si fabuleux avec les portes du paradis. Bien entendu, si vous ne connaissez pas l'œuvre de Gabriel Fauré, je vous invite à vous ruer dessus parce que vous ne pouvez pas être passé à côté quand même avec toutes les fêtes qu'il y a autour. Mais vraiment, écoutez cette musique si extraordinaire, si humaine, qui encore aujourd'hui arrose toute la musique sacrée. Et je vous ai déjà parlé, je crois, de Maurice Duruflé et de son Requiem, que je trouve extraordinaire, qui s'est beaucoup inspiré de celui de Fauré, ne serait-ce que parce que Fauré, même s'il n'a pas fait une énorme révolution, il a permis cette lente évolution, et aujourd'hui encore, on s'en inspire. Mais je ne vais pas vous laisser avec simplement un morceau. Il est vrai que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a beaucoup à dire sur cette musique-là. Et je voulais vraiment, comme je sais qu'elle est célèbre, vous en parler, parce que c'est important de décortiquer, de réécouter les chefs-d'œuvre que l'on pense connaître. Et là, on va faire le tube ultime de ce compositeur-là. Il s'agit du Cantique de Jean Racine, chemin obligé pour tous les chœurs du monde. Il est vrai que c'est peut-être son œuvre la plus célèbre, la plus reprise, parce que pas si difficile, mais en même temps si belle et si poétique. Il s'agit d'une œuvre, une de ses premières œuvres. C'est pour ça que là aussi, je tenais à vous faire un petit peu le miroir de la vie de Gabriel Fauré, puisque le Requiem est une de ses œuvres de fin de vie. En revanche, le Cantique de Jean Racine est une de ses œuvres de jeunesse. Il l'a écrite quand il avait 19 ans, lorsqu'il était encore à l'école Niedermayer. Et d'ailleurs, il a eu le prix de composition du concours de sortie de cette école. Et cette partition est dédiée à son maître César Franck, immense compositeur belge puis français, qui lui aussi a fait des œuvres absolument sublimes. Nous aurons l'occasion d'y revenir, ne paniquez pas. Et donc, bien entendu, lorsqu'on pense à la musique de Gabriel Fauré, automatiquement dans la musique chorale, on pense à ce Cantique de Jean Racine. Voici donc pourquoi je vous propose de l'écouter et ensemble d'apprécier cette musique si extraordinaire, et en même temps avec une forme de naïveté. Vous allez l'entendre sur le côté de sa jeunesse, il y a vraiment ce côté beaucoup plus doux où la douceur est un peu latente dans toute cette œuvre, avec une tonalité de ré bémol majeur extrêmement onctueuse et une partie modulante qui est en la bémol majeur puis si bémol mineur, qui sera le seul moment un petit peu plus triste de la pièce. Mais c'est quand même une œuvre qui est baignée d'une grande chaleur et d'une grande naïveté qu'il est toujours bon de réécouter. Voici donc le Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré par les mêmes interprètes que tout à l'heure. voix des grands chœurs de la basilique Saint-Cernin s'ajouter celle des enfants de la maîtrise de cette même basilique, que je remercie, à qui je rends hommage. Et bien entendu, j'espère que vous avez passé une belle après-midi musicale en compagnie de Gabriel Fauré. Et j'aimerais terminer en m'adressant à lui. Maître, si vous m'entendez, et je suis sûr que vous m'entendez, vous avez, je pense, su assez bien décrire pour nous autres mortels ce qui nous attendait au paradis. Merci pour ces œuvres, merci d'avoir irrigué la musique comme vous l'avez fait. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles œuvres, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Je vous promets qu'il y a encore de belles choses à écouter. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.